Père, je veux te rendre la gloire de m'utiliser ce matin comme un instrument. Je veux te rendre la gloire que ce matin, Seigneur, ma langue, mon esprit, tout ce qui est en moi, parle de toi. Je veux que ta parole sorte de mon âme et que, Seigneur, dans mon âme soit ta présence et que ton peuple soit édifié. Père, ton peuple n'est pas venu m'écouter pour savoir si je suis un bon orateur. Ton peuple n'est pas venu m'écouter pour savoir si j'ai la langue facile ou quelque chose de mieux à les dire aujourd'hui. Ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu veut d'eux. Et ils veulent savoir où Dieu les amène. Et ils veulent une parole qui va vivifier les cœurs, soigner leur âme et guérir leur esprit. Père, bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce matin, je veux te parler de la montagne qui t'ouvrira de nouvelles portes. La montagne qui t'ouvrira de nouvelles portes. Oui, je veux te dire ce matin que la mort de ton Goliath t'ouvrira plusieurs portes. Je veux te parler d'une montagne qui est devant toi, une montagne qui semblait être difficile à affronter. Une montagne qui effraie tout le monde et qui est devant toi et qui t'effraie. Cette montagne-là, je te dis ce matin que tu vas l'affronter et cette montagne te donnera la possibilité d'avoir plusieurs portes ouvertes. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, le chapitre 17. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, dans la vie, même avant de connaître Dieu, même sans s'attacher à Dieu, nous sommes confrontés plusieurs fois, à plusieurs moments, à des épreuves difficiles. Il arrive que quand nous nous trouvons devant ces épreuves, nous nous rendons compte que plusieurs personnes ont déjà fui devant ces épreuves, ou peut-être certaines personnes ont essayé d'affronter ces épreuves, mais n'ont pas pu les vaincre, ou certaines personnes rarement ont pu vaincre ces épreuves. Et quand quelqu'un arrive avec une épreuve qui est difficile, cela devient automatiquement un témoignage. Et ce témoignage-là sert aussi à d'autres personnes pour qu'ils puissent avoir la foi et le courage d'avancer dans certaines circonstances, dans certaines situations. Ce matin, le Seigneur veut que je motive ta foi. Ce matin, le Seigneur veut que je t'explique quelque chose qui va encourager ton âme, qui va encourager ta foi. Alléluia. Vous savez, comme je vous l'ai dit ici, Dieu se trouve dans l'âme. Et l'âme, c'est le sang. L'âme, c'est l'esprit. Et Dieu en nous est recevoir ce qui vient de lui, qui est la parole. Le corps aime la nourriture, le corps aime tout ce qui lui rend à l'aise. Mais l'âme a besoin d'une bonne nourriture spirituelle pour être en connexion avec ce Dieu Tout-Puissant, parce que c'est une partie de lui qui l'a mis en nous. Alléluia. Et ce matin, la parole de Dieu va t'amener quelque part. Quelque part où tu vas comprendre que tu n'es pas seul dans tes combats. Quelque part où tu vas comprendre que là où tu te trouves en ce moment, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas par hasard que tu es là, mais c'était prévu que tu sois là pour remporter une victoire. Et cette victoire doit t'ouvrir d'autres portes. Alléluia. Aujourd'hui, certainement, tu es inconnu. Certainement, personne n'entend parler de toi. Mais certainement, personne ne voit la gloire de Dieu sur ta vie. Mais Dieu te met dans l'ombre parce qu'il va te faire apparaître. Et lorsque tu vas apparaître, c'est au moment où tu as affronté la montagne qui était là, qui t'attendait pour t'ouvrir les autres portes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce matin, nous allons lire un passage, nous allons lire un chapitre qui est très long, c'est pourquoi on ne va pas le lire en entier, on va le lire au fur et à mesure, et je prêcherai au fur et à mesure qu'on le lit. Alléluia. On va le lire au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ce test que j'aimerais que tu gardes pour ton âme. Dans 1 Samuel, le chapitre 17, il est écrit, au verset 1, « Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térubins. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne du côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Il s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 7000 cycles d'argent. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On s'arrête là un instant. Bien-aimés, voici une guerre contre deux camps. Le camp des ténèbres et le camp de la lumière. Le peuple de Dieu et ses ennemis. Oh, alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient rassemblés, chacun était dans son lieu. Dis-moi, chacun était dans sa position. Suivez-moi, s'il vous plaît. Amen. Chacun était dans sa position. Chacun était dans son lieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes unis avec moi dans ce message? Amen. Chacun était dans son lieu. Les Philistins étaient à leur position de l'autre côté de la montagne. Les enfants d'Israël étaient à leur position de l'autre côté de la montagne. Et ils étaient séparés par une vallée. Alléluia. La Bible dit que normalement c'était une guerre. C'était une guerre normale. Quand on va à la guerre, c'est une guerre. Alors, les soldats se battent entre eux. Et puis celui qui remporte la guerre rentre chez lui victorieux avec tous les butins de sa victoire. Mais cette guerre-là, cette fois-ci va être différente. Parce que dans le camp de l'adversaire, dans le camp de ceux qui étaient les ennemis du peuple de Dieu, se trouvait quelqu'un qui était plus fort que tous les hommes qui représentaient le peuple de Dieu. Il se trouvait une seule personne qui se trouvait lui-même capable de vaincre toute l'armée entière. Cette personne-là comptait sur sa taille. Cette personne-là comptait sur ses armures. Cette personne-là
comptait sur son expérience de guerre. Parce que chez lui, en Philippines, personne ne pouvait s'arrêter devant lui. Il a fait des entraînements où il s'est battu contre 100 soldats, 200 soldats, 1000 soldats. Il les a tous vaincus chez lui. Tous ses entraînements étaient parfaits. Et le roi a décidé que celui-là soit là pendant cette guerre. Et cet homme-là, ayant tellement confiance en lui, va faire quoi? Il va sortir de toute l'armée qu'il avait, il va se présenter devant l'armée et il va dire au peuple d'Israël, écoutez, au lieu de vous battre, là, qu'on se batte tous ensemble, moi seul, avec mon expérience, avec mes armes, avec ma force, avec ce que je suis, je vais vous vaincre tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire la suite, après vous verrez que le peuple d'Israël avait peur de cet homme. Lorsqu'il sentait qu'il venait devant, il disait, mais vous là, vous êtes des esclaves de Saül. Mais vous là, vous êtes ceci, vous êtes un peuple, il est traité de tous les noms. Il dit, mais moi seul, je peux remporter la victoire contre vous. Et si vous voulez, pour aller plus simple, regardez parmi vous, choisissez quelqu'un qui est à ma hauteur et qu'il vienne qu'on fasse un duel. Et si cette personne remporte, c'est que toute votre armée a gagné. Mais si cette personne perd, c'est que toute votre armée a perdu. Donc vous serez nos esclaves. Et il faisait cela, il disait cela avec des injures. Il insultait le peuple de Dieu. Bien aimé, la Bible dit qu'il n'y avait personne qui osait regarder même cet homme dans le visage. Parce que dès qu'il sortait, tout le monde s'échappait. Le peuple de Dieu avait oublié que Dieu était avec eux. Le peuple de Dieu avait oublié que Dieu les avait déjà fait sortir de l'Égypte. Le peuple de Dieu avait oublié que Dieu avait remporté déjà des années passées plusieurs combats pour eux. À cause d'une seule personne nommée Goliath, à cause de cette montagne, ils allaient tous se cacher. Alléluia. Vous savez pourquoi ils allaient se cacher? Parce qu'ils n'avaient pas la grâce et l'onction qui devraient vaincre cette montagne. Parce que la victoire sur cette montagne ne les concernait pas. Dieu avait prévu quelqu'un pour que cette personne-là puisse vaincre cette montagne afin que des portes lui soient ouvertes. Oh, alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas tout le monde qui pourra vaincre ta montagne. Ce n'est pas tout le monde qui pourra vaincre la montagne qui t'est réservée. La montagne qui t'est réservée, celle que tu dois vaincre pour avoir toutes tes gloires. Celle que tu dois vaincre pour avoir toutes tes portes ouvertes. Ce n'est pas tout le monde qui va la vaincre. N'attends pas que des gens viennent vaincre ta montagne. Parce que si des gens viennent vaincre ta montagne, tu n'auras pas les portes ouvertes pour toi. Tu auras les portes ouvertes pour ceux qui l'ont vaincu, mais toi, tu ne seras pas vu. Alors, accepte de vaincre ta montagne. Nous allons voir la suite du texte, vous allez voir. La Bible dit dans le verset 12, « Or, David était fils de cet Ephratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 enfants, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient subi Saül à la guerre. Le premier-né de ses trois fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent subi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères ce téphar de gain rôti et ses 10 pains et cours au camp vers tes frères, porte aussi ses 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül, et tous les hommes d'Israël
dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de garde, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. On s'arrête là 2 minutes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle au peuple de Dieu ce matin? Voici que la guerre est annoncée. Bien-aimés, comme je l'ai dit une fois que j'ai l'habitude de le dire, tant que nous vivons sur cette terre, nous sommes toujours en train de mener un combat spirituel. Nous avons des Philistins qui nous attendent partout, et nous avons parmi ces Philistins toujours des Goliaths qui sortent. C'est-à-dire que nous avons plusieurs épreuves, mais dans toutes ces épreuves, nous aurons toujours une épreuve qui est plus forte que l'autre. Alléluia! Nous allons traverser des épreuves que nous allons surmonter facilement. Mais il y a une épreuve qui va venir. Cette épreuve-là, nous nous demandons, est-ce que je vais pouvoir l'affronter? Nous nous demandons, est-ce que je vais continuer à être chrétien? Nous nous demandons, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je baisser les mains? Dois-je contourner? Mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que cette épreuve représente une montagne, une grande montagne de 6 coudées. Cette épreuve représente un Goliath devant nous. Et nous sommes en train de nous demander souvent, oh, que dois-je faire? Lorsqu'une chrétienne ou une famille chrétienne perd un enfant, c'est une épreuve difficile. Lorsqu'un enfant, un chrétien, prie pour un sujet quelconque depuis des années, il ne trouve pas la solution. Et puis, une situation très grave arrive, par exemple, encore pour s'ajouter à cette épreuve, ça représente un Goliath. Je prends l'exemple d'un chrétien qui aujourd'hui s'est donné à Dieu, qui par exemple cherche du travail, n'en a pas. Et puis un jour, on vient lui dire, sors de ta maison parce que tu ne peux pas payer le loyer. On vient lui dire, écoute, pendant qu'on lui dit que sors de ta maison, on lui annonce en même temps, ta maman est décédée. Alors, pendant qu'on lui dit que ta maman est décédée, on lui dit, ton petit frère vient d'avoir un accident. Oh, tout ça, ça représente un Goliath. Alléluia. Ça représente un Goliath. Ça représente une épreuve difficile devant nous. Alors que nous avons déjà traversé plusieurs épreuves, mais voici une montagne qui vient de se présenter devant nous. Une montagne qui s'affirme. Une montagne qui vient nous affronter. Regardez bien que Goliath a fait quelque chose. Il est sorti du camp des Philistins. Alléluia. Il n'est pas resté dans le camp. Il est venu devant pour affronter le peuple d'Israël. Il est venu devant pour narguer le peuple d'Israël. Il a dépassé sa frontière. Il y a toujours des épreuves qui dépassent les frontières pour nous. Alléluia. Il y a toujours des épreuves qui osent s'approcher de nous pour nous tester, pour nous affronter, pour nous naguer. Oh, mais il y a des montagnes qui servent à ouvrir d'autres portes pour nous. Il suffit de les affronter. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si Samson n'avait pas tué le lion qui était devant lui, il y avait un lion qui l'affrontait. Si Samson ne l'avait pas tué, il n'aurait pas eu du miel dans ce lion. Oh, alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que si
David, dont on va voir tout à l'heure, n'avait pas eu le courage d'affronter cette montagne dont on est en train de parler, on n'aurait jamais entendu parler des exploits de David. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si Daniel n'avait pas été jeté dans la fournaise ardente, on n'aurait jamais entendu parler de sa foi et de son histoire de la délivrance de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, si Jésus-Christ n'avait pas accepté de mourir à la croix de Golgotha, nous ne serions pas sauvés. Il y a des épreuves, il y a des montagnes, il y a des situations qui sont là pour qu'il y ait une bénédiction derrière. Mais il faut tout simplement les affronter. Ne pas faire comme les Philistins, les enfants d'Israël, qui, dès qu'ils voyaient cette épreuve, ce Philistin, il n'y avait même pas un qui osait dire, non, arrête d'insulter notre Dieu. Moi, même si tu me tues, je suis devant, je vais combattre pour mon Dieu. La Bible dit qu'ils s'échappèrent tous. Ils étaient effrayés et ils partaient se cacher. Et voici qu'un jeune homme, de rien du tout, nommé David, quelqu'un qu'on ne considérait pas, qu'on n'avait jamais vu. Ses frères, ses trois frères sont allés en guerre avec Saül le roi. Et la Bible dit que, en quelque sorte, c'est comme s'il avait accompagné ses frères. Mais pendant que ses frères sont allés en guerre, il est rentré chez son père. Son père était serviteur du roi, mais le roi ne savait pas qui il était. Son nom n'était même pas dans l'esprit du roi. Mais cet enfant va faire quelque chose qui va faire qu'on va savoir qui est son père, qui est sa famille, d'où il vient et qui il est lui-même. Alléluia. David était dans le trou, dans les champs avec les brebis. Il était en train de s'occuper de son troupeau. Il n'avait rien à voir avec cette guerre. Même si c'était la guerre de son peuple, même si c'était une guerre qui concernait son peuple, David, lui, était à son poste en train de travailler en tant que quoi? Berger. Alléluia. Il surveillait les brebis de son père. Je vais dire à quelqu'un ce matin, David avait d'abord été oué. Alléluia. Avant cette histoire, David avait été déjà oué par qui? Par Samuel. Il avait été oué comment? Pour être quoi? Pour être un roi. Suivez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Je sais que ce message va vous faire du bien. Et je sais que vous êtes déjà touché en esprit. Donc vous êtes concentré. Mais vous savez, quand un message vous touche, vivez-le. Sautez de joie. Chantez de joie. Criez de joie. Possédez ce qui se trouve dans le message. Nous ne sommes pas des enfants de cœur dans une église catholique. Nous sommes dans une église vivante, une église de feu. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu du bruit. Et Dieu aime qu'on écoute des fois sa parole dans ce genre de bruit. Alléluia. David était dans le champ avec ses troupeaux. David était à son poste. Et comme je disais à quelqu'un, David avait été déjà un roi. David savait qu'il allait être roi. Mais tout de suite, David ne s'était pas autoproclamé roi. Alléluia. Dieu dit, je ferai de toi ministre. La prophétie est sortie. Mais attends le jour que Dieu a prévu pour que tu sois ministre. Quelqu'un n'a pas compris ça. Je n'ai pas entendu d'amen. Dieu dit, tu auras de bénédiction, tu auras telle chose ou telle chose. Tu as saisi la prophétie. Ça ne veut pas dire que c'est demain matin que tu te lèves et que cette chose est entre tes mains. Dis amen. Alléluia. Ça dit que Dieu, la prophétie est sortie, comme Habakkuk l'a dit. Mais il y a le temps que Dieu a prévu et cette prophétie va s'accomplir. David a été où un roi. Mais quand il a fini d'être où un roi, qu'est-ce que David a fait? Il est retourné à son poste dans le champ. Pour s'occuper de quoi? Des brebis. Mais pourquoi David était dans le champ avec ses brebis? C'est parce que Dieu était en train d'avoir une relation particulière avec lui. Et cette relation particulière était une formation pour David. La formation qui allait pouvoir le permettre de paraître dans le grand public. La formation qui allait le permettre de vaincre son Goliath. La formation qui allait permettre à David d'avoir le cœur du combattant de l'Éternel. La formation qui allait permettre à David de pouvoir régner plus tard sur le peuple d'Israël sans reculer devant aucune situation. La formation qui allait permettre à David d'être l'homme selon le cœur de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu forme dans l'ombre. Dieu forme dans l'ombre. Oui. Et il démontre sa gloire en public. Dis ça à la personne. Et il démontre sa gloire en public. Lorsque David était dans les champs, il n'y avait que les moutons qui voyaient le courage de David. Il n'y avait que les lions et les loups qui voyaient le courage de David. David, dans les champs, protégeait ses brebis. Quand il y avait des ours qui venaient attaquer les brebis, David se battait contre les ours. Quand il y avait les lions, David se battait contre les lions. Mais il y a une chose qu'on ne dit pas ici, c'est que David, en tant que berger, jouait de la harpe, de la flûte, de toutes sortes d'instruments. Et vous savez qui était son peuple? Qui étaient ceux qui l'écoutaient? C'était la nature et ses brebis. Les moutons écoutaient la louange de David. Les moutons écoutaient les psaumes de David. Pourtant, les moutons ne parlent pas. Les moutons ne chantent pas. Les moutons ne peuvent rien dire. Mais lorsque les moutons étaient en train de se battre entre eux, que David jouait sa musique et chantait à l'Éternel, tous les moutons restaient tranquilles et ils pliaient les petites pattes et se posaient tranquilles. Il n'y avait plus aucun bruit, ils étaient tous là. Même celui qui était en train de s'échapper de l'autre côté rêvait avec les autres parce que David avait l'habitude de rassembler son troupeau par la louange avec l'Éternel. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, les psaumes de David arrivent à réjouir le cœur des enfants de Dieu. Dans la nature, dans la forêt, avec les brebis, David a eu son expérience avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, avant d'affronter ton Goliath, avant d'affronter la montagne qui va t'ouvrir plusieurs portes, il faut que tu aies tes moments intimes avec Dieu. Il faut que tu aies tes moments de silence avec Dieu. Il faut que tu aies tes moments de communion avec Dieu. En fait, il faut que Dieu te connaisse et que toi, tu connaisses Dieu. Il faut qu'il y ait des choses sur lesquelles tu peux te baser pour dire, Dieu m'a dit ceci. Une fois, Dieu m'avait révélé cela. Une fois, Dieu m'avait montré cela. Alléluia! Aujourd'hui, si je peux exhorter beaucoup de personnes, c'est parce que Dieu a permis que je traverse beaucoup d'épreuves dans lesquelles Dieu est venu me dire des choses qui peuvent me servir aujourd'hui pour aider d'autres personnes. Lorsque tu étais dans ta chambre, tout seul, dans un endroit que tu n'avais rien à manger, dans un endroit de misère, et que Dieu vient te dire, je ferai ceci de toi, je ferai ça avec toi, tu iras partout le monde entier, et que tu te demandes, qu'est-ce que tu manges demain matin? Et que des années plus tard, tu vois cette chose s'accomplir, tu es capable de dire à quelqu'un qui est en train de traverser une épreuve, sois tranquille, si Dieu l'a dit, c'est qu'il le fera. David n'était pas allé dans l'intention de vaincre Goliath. Il ne le connaissait pas quand il est allé voir ses frères. C'est son père qui l'a envoyé. Son père lui a dit, va donner de la nourriture à tes frères et reviens me donner de leurs nouvelles. Alléluia. Je veux dire encore à quelqu'un ce matin, c'est ton obéissance à ton père qui est d'abord Dieu. Et ton obéissance à toutes les autorités que Dieu te met devant toi qui t'amènera devant la montagne que tu dois affronter pour tes victoires. Ton obéissance qui t'amènera dans ton lieu de bénédiction. Ton obéissance aux autorités que Dieu t'a données qui t'amènera. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont perdues parce qu'ils ne veulent supporter aucune autorité. Quand un enfant ne supporte pas l'autorité de ses parents, l'enfant est perdu. Quand un homme dans le monde ne supporte pas les autorités qui sont établies dans la vie, l'homme est déséquilibré. Dieu dit de respecter toutes les autorités. Et dans la maison de Dieu, quand on ne respecte pas les autorités que Dieu a établies, cela détruit beaucoup de choses. C'est le père de David qui a dit à David, « Va voir tes frères. » David pouvait dire à son père, « Mais je suis encore jeune, je ne peux pas aller dans un camp de guerre. » Je suis en train de m'occuper de mes brebis et moi je ne me sépare jamais de mes brebis. Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille dans le camp de guerre? La Bible dit, David s'est levé de bon matin. Il a confié les brebis à un gardien et il est parti sous l'ordre de son père, ne sachant pas ce qu'il attendait devant. Alléluia. Bien-aimé, vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie? Respectez les autorités que Dieu vous a données. Quand Dieu te donne une autorité, Dieu met entre les mains de cette autorité la source de ta bénédiction. Dieu peut tout faire, mais des fois, Dieu met certaines choses entre les mains de certaines personnes pour nous. Alléluia. C'est pourquoi le mot père existe, le mot mère existe, le mot père spirituel existe, le mot mère spirituel existe, et Dieu a établi des autorités dans l'église pour que certaines personnes reçoivent leur bénédiction. David donc arrive dans ce camp. Il est venu tout simplement voir ses frères. Donc il donne la commission que son père lui a donnée aux personnes qu'il faut. Et il va vers ses frères pour leur poser juste la question pour savoir si tout se passait bien. Normalement, après ce moment, il devrait retourner aussitôt voir son père pour dire « Oui, papa, je suis allé les voir, tout se passe bien. » Mais voici que quelque chose va se passer pour changer l'histoire. La montagne va apparaître. Cette montagne qui va pouvoir ouvrir les portes de grâce et de bénédiction de David va apparaître. Lui-même ne s'attendait pas à cette montagne. Et cette montagne nommée Goliath va surgir. Oh, je veux dire à quelqu'un, si Goliath savait, ce jour-là, il aurait fermé sa bouche. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple dans cette église? J'ai dit, si Goliath savait, ce jour-là, il aurait fermé sa bouche. Il aurait insulté tout le temps le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, mais ce jour-là, Goliath n'aurait rien dit. Parce que celui qui avait été destiné et prédestiné de le vaincre était là ce jour-là. Oh, alléluia. Quand c'est le jour de vaincre ta montagne t'a dominé pendant tous les jours. Mais le jour que Dieu a fixé que tu vainques ta montagne sera le mauvais jour que la montagne choisira pour venir t'affronter. Alléluia. Ça sera le mauvais jour. Goliath ne savait pas que ce jour, elle aurait dû fermer sa bouche. Et voici qu'il sort. Il traverse sa frontière. Il s'approche encore des enfants d'Israël. Il leur redit la même chose. Vous êtes des esclaves de Saül. Moi, je suis Goliath. Pourquoi vous faites ceci? Venez, je vais vous vaincre. La Bible dit que quand le peuple l'a vu, le peuple s'est enfui et derrière, ils étaient en train de papoter. Il y a toujours des gens qui parlent mais qui n'ont pas de solution. Ils savent raconter. Ils savent raconter, ils savent expliquer. Mais ce n'est pas eux qui ont la solution. La solution se trouve avec Dieu. Et la solution se trouve avec ceux à qui Dieu donne la solution. Je vais dire ce matin à ce peuple, vous êtes la solution de plusieurs personnes. Dites amen, je n'ai pas entendu. Vous êtes la solution de plusieurs personnes. Parce que la solution se trouve avec Dieu. Et la solution se trouve avec ceux à qui Dieu donne. Dieu vous donne la solution pour que plusieurs personnes aient cette solution. Ne doutez jamais de la solution que Dieu a mise dans vos mains. D'autres seront là en train de parler. Oui, leur église. Oui, ils disent qu'ils sont chrétiens. Oui, ils sont ceci. Vous voyez ceci, cela. Et parmi eux, remarquez ceux qui parlaient. Ce n'était pas les Philistins qui racontaient ces choses. C'était le peuple de Dieu lui-même. Les chants dans le peuple de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les hommes du monde qui parleront plus de toi. Ils n'ont rien à faire. Les hommes du monde de ce que tu as ou de ce que tu feras. Ce n'est pas les hommes du monde qui chercheront à décourager ta foi. Ce n'est pas les hommes du monde qui chercheront à décourager ton zèle pour Dieu. Ce n'est pas les hommes du monde qui chercheront à te parler d'un tel ou une telle. C'est dans le peuple de Dieu lui-même. C'est ceux qui sont censés t'encourager. Ceux qui sont censés prier pour toi. Ceux qui sont censés te donner du courage. Ceux qui sont censés jeûner pour toi viendront te dire, méfie-toi, ne fais pas ceci, pourquoi tu as fait cela? Oh, l'autre a fait ceci, tu as vu l'autre là, il est comme ça. Sinon, bien-aimé, hier j'étais en train de faire le bilan de tous ceux qui ont mis les pieds dans ce peuple, de tous ceux qu'on connaît dans cette ville. J'étais en train de faire le bilan avec mon épouse et je dis, mais, oh, deux fois je m'assois et je réfléchis et je me dis, mais si toutes ces personnes étaient là, aujourd'hui nous aurons un peuple aussi grand que ce que nous avons actuellement. Comme si j'étais en train de, en quelque sorte, me culpabiliser. Et le Saint-Esprit me dit, il me donne nom par nom les personnes. Il me dit, mais regarde toutes ces personnes. Regarde le fond, regarde le fond, regarde le fond, regarde le fond, regarde le fond. Il dit, mais si toutes ces personnes qui étaient là, tu crois que c'était une église que tu aurais? tu aurais un cas de désordre, de pala, de dispute, de raconta, des autres qui marchent sur les autres et qui montent sur les autres. Parce que pour devenir chrétien, pour être un vrai enfant de Dieu, ce n'est pas poussé par les hommes, c'est poussé par l'esprit. Et cela doit venir du cœur. Si le cœur n'est pas pur, tout le reste ne sert à rien. Alléluia. Et le Saint-Esprit me dit, ce qui a été prévu. D'ailleurs, Jésus a dit, je ne prie pas pour ceux-là, mais je prie pour ceux qui sont à moi. Parce que, il dit, mes brebis me connaissent et me suivent. Il dit, ceux qui sont pour moi seront là. Alléluia. Ce matin, il y a une chose qui s'est passée pendant qu'il pleuvait, comme la fois passée. Je voulais appeler tout le monde pour dire, je vais vous chercher. Je vais vous chercher pour venir faire le culte. Le Saint-Esprit me dit, surtout pas. Est-ce que tu veux savoir s'il y a des chrétiens dans l'église? Est-ce que tu veux savoir s'il y a des gens motivés? Est-ce que tu veux savoir s'ils aiment réellement Dieu? Il dit, mais tu voyages bientôt. Tu sais bien qu'il n'y aura personne pour aller les chercher. Comment est-ce qu'ils feront? Ils ne viendront pas à l'église parce que tu n'es pas allé les chercher. Il dit, reste là et prie. Mes enfants qui tiennent à venir m'adorer, viendront m'adorer. Alléluia. Vous voyez, il y a toujours des gens qui parlent mais qui n'ont pas de solution. Il y a toujours des gens qui vont se mélanger, mais qui n'ont pas de solution. Je me rappelle de certaines personnes qui, au début, quand notre sœur, la diaconesse, est arrivée, qui disait qu'ils étaient son ami, même une qui allait jusqu'à son travail pour lui dire, « Méfie-toi de ceci, jusqu'à ce qu'elle chasse cette personne de sa devanture. » Alléluia. Mais au fond, ces personnes n'adorent pas Dieu. Vous les voyez en ville, avec leurs cigarettes. Vous les voyez dans les bars, en train de tout ceci. Mais ils prétendent être enfants de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à affronter les Goliaths. Donc, ils vont toujours décourager ceux qui seront prêts à affronter les Goliaths. Alléluia. Alors que ceux qui affrontent les Goliaths sont ceux qui sont prédestinés à la gloire. Sont ceux que Dieu a choisis pour avoir un parcours avec eux sur cette terre. Je veux dire à quelqu'un, répète à la personne qui est à côté de toi, ce n'est pas n'importe qui affronte Goliath. Ce n'est pas n'importe qui affronte Goliath. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un honneur, c'est une gloire d'affronter Goliath. Goliath fait peur à d'autres personnes. Mais celui qui affronte Goliath, Goliath ne le fait pas peur. Goliath le réjouit. Pourquoi? Parce qu'après son Goliath se trouvent les portes ouvertes. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Alléluia. Bien-aimé, les gens m'ont dit à côté de David, cet homme vient tout le temps nous insulter. Et le roi dit que celui qui arrive à le vaincre aura telle et telle récompense et il aura aussi sa fille en mariage. Yow! Quelque chose va se passer. La promesse après la victoire va déclencher quelque chose dans la vie de David. Alléluia. David a d'abord vu que cet homme insultait Dieu. Regardez le verset 26. Le verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant ?» Alléluia. Regardez bien. David commence en disant, il pose la question d'abord, qu'est-ce qu'on fera? Alléluia. Vous avez dit quoi là? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va vaincre cet homme? C'est d'abord la récompense qui l'a motivé d'un coup. Amen. Qu'est-ce qu'on lui fera? Répétez-moi bien. Et la deuxième partie, il dit, qui est donc ce Philistin qui est en train d'insulter le peuple de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, ta foi chrétienne est suivie d'une récompense. Tes victoires sont suivies d'une récompense. S'il suffisait tout simplement de vaincre Goliath et puis l'histoire s'arrêtait là, je ne sais pas si David allait se motiver. Je ne sais pas. Mais David savait que, après avoir vaincu ce Goliath, non seulement il allait retirer l'opprobre sur le peuple d'Israël, mais il aura une victoire derrière. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je veux dire à quelqu'un, toutes les épreuves que tu es en train de traverser sur cette terre pour ta vie chrétienne sont en train d'emmagasiner tes bénédictions et ta position auprès du Seigneur. Une vie chrétienne sans épreuve devient une vie chrétienne fade. Et on se pose des questions, est-ce qu'il y a une bénédiction derrière? Dieu, écoute-moi bien, et tu vas répéter cette phrase à quelqu'un qui est à côté de toi. Dieu n'envoie pas les épreuves vers toi pour qu'ils puissent te vaincre, mais Dieu les envoie pour que toi tu puisses les vaincre. Dis ça à quelqu'un. Dieu n'envoie pas les épreuves pour qu'ils puissent te vaincre, mais Dieu les envoie pour que tu puisses les vaincre. Dis à la personne encore, parce que derrière se trouve ta bénédiction. Répète-lui d'une manière en lui disant, dis-lui comme ça, c'est derrière tes épreuves que se trouve la vraie bénédiction. Oh, alléluia. Bien-aimé, donc David va poser la question au peuple, à la les gens. Et le peuple, verset 27, la Bible dit, le peuple répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Verset 30, et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Bien-aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura toujours un Éliab, quelqu'un à côté de toi, quelqu'un qui devrait même t'encourager, quelqu'un qui devrait te motiver, qui va toujours trouver que ton zèle est de l'orgueil, qui va trouver que ta manière de prier est exagérée, qui va trouver que ta manière d'avancer dans la foi est exagérée. Tout ce que tu vas vouloir faire pour Dieu, lui, il va l'interpréter autrement pour te dire, par exemple, que c'est parce que tu veux te faire voir, que c'est parce que tu es orgueilleux, et que c'est parce que tu es orgueilleuse, et que c'est parce que tu cherches qu'on dise, on parle toujours de toi, qu'on dise tout le temps, Esther, 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 donc ça cause ça, tout le temps tu es en train de le faire, tu veux qu'on dise toujours oui, c'est Badel, c'est Badel, c'est Badel, c'est Christelle, c'est Christelle, Christelle, c'est Chantal, c'est Chantal, Chantal, c'est pourquoi tu le fais. Et ces personnes ne peuvent pas savoir que tu as une destinée. Ces personnes ne peuvent pas savoir que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Ces personnes ne peuvent pas savoir que tu es la personne choisie pour la circonstance. Ils auront toujours quelque chose à dire. Ils peuvent te décourager. Je vais même aller plus loin pour dire, ces personnes peuvent être ton père, peuvent être ta mère, peuvent être même ton pasteur, sans le savoir, te décourager dans ce que tu es en train de faire. Oh, que Dieu me pardonne si j'ai découragé quelqu'un dans sa foi, j'ai découragé quelqu'un dans ses épreuves, j'ai découragé quelqu'un dans sa mission, par mes paroles, par mes actions, sans me rendre compte. Si Dieu t'a destiné à quelque chose et que tu sens que Dieu te dit de faire la chose, que tu es en train de le faire, c'est Dieu qui te l'a dit. C'est qu'il y a une grâce derrière. Mais quelqu'un peut être là. Le grand frère de David était une autorité pour David. C'est le grand frère. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu es venu chercher? Il a oublié que c'est le papa de David qui a envoyé David. Il a oublié que David, depuis qu'ils sont là, ne s'est jamais levé tout seul pour venir comme ça. Mais dans cette situation, comme il a vu le petit David en train de s'exprimer, il dit, mais toi, tu es trop orgueilleux. Tu es trop arrogant. D'ailleurs, tu as confié le brebis à qui? Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est pour venir voir la bataille que tu es venu. Mais David n'est pas venu de lui-même. Oui, c'est son père qui l'a envoyé. C'est Dieu qui m'a dit, va dans tel endroit. C'est Dieu qui m'a dit, va jeûner. C'est Dieu qui m'a dit, déplace-toi, va jusqu'à Châtellerault, c'est une terre stérile. C'est Dieu qui a dit à Esther, va dans cette église, il n'y a personne. C'est Dieu qui a dit à Badel, va-t'en, fais ceci. C'est Dieu qui a dit à Alette, lève-toi, marche de là-bas jusqu'ici pour venir prier. C'est Dieu qui me l'a dit. Pourquoi tu me condamnes, Eliab? Et ça peut être le pasteur, ça peut être le dirigeant. Oui, Toi, tu es trop dans des réunions de prière. Il y a même aujourd'hui où je vous parle, dans les églises qui font tellement de concurrence en concurrence, et que le pasteur va défendre, par exemple, à une de ses brebis d'assister à une veille de prière qui pouvait peut-être lui faire du bien. Il va l'empêcher de peut-être même rendre visite à une âme qui pouvait, la personne pouvait sauver. Alléluia. Que Dieu me pardonne sincèrement ce matin si j'ai empêché quelqu'un de rentrer dans sa bénédiction. Alléluia. Mais David sentait en lui qu'il y avait quelque chose. Alors, regardez ce que David va dire à son frère. Il va dire à son frère, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai rien fait de mal. Et regardez aussitôt ce que David va faire. La Bible dit, il se retourna. Il donna le dos à son frère. Il n'écoutait plus ce que son frère disait. Son frère pouvait parler dans le vide, lui, il n'écoutait pas. Lui, il écoutait la voix qui était dans son cœur. Esther, si Dieu te dit bénis les enfants de l'église, bénis-les. Si Dieu te dit prends soin des enfants du pasteur, fais-le. Même si le pasteur, en tant que père, va venir s'arrêter devant toi pour dire ne le fais pas, s'il faut que tu te caches, cache-toi pour le faire. Fais-le, parce que Dieu sait que ta bénédiction est dedans. Badel, si Dieu te dit jeûne ou fais ceci, fais-le. Ou Dieu te dit, fais ou telle chose, fais-le. S'il y a quelque chose que Dieu vous met à cœur de faire qui vous procure la joie, et peut-être que l'autorité n'a pas compris, pendant qu'il vous parle, il n'a pas compris, mais Dieu lui dira plus tard que cela vient de lui. Il ne s'agit pas, David n'a pas insulté son grand frère. Il ne s'est pas battu avec son grand frère. Il n'a pas dit des paroles méchantes à son grand frère. Il a simplement dit à son grand frère, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et la Bible dit, il s'est aussitôt retourné. Je prends l'exemple en parlant des enfants. Un homme de Dieu est tellement concentré sur l'œuvre de Dieu. Il est tellement concentré sur comment sauver des âmes que deux fois il oublie sa famille. Mais si Dieu envoie une personne comme Esther par exemple, ou comme Alette par exemple, pour dire pense aux enfants du pasteur, de temps en temps fais-les ceci. De temps en temps, prends-les comme ça. Fais ceci parce que le père n'a pas tellement le temps, la mère aussi elle est tellement occupée à prendre soin du père que des fois, il ne peut pas faire ceci. Donc, mais ça veut dire que la bénédiction de cette personne se trouve là. Mais il peut arriver que le père ou la mère, dans le souci de l'éducation de ses enfants, va certaines mettre certaines règles. Mais Dieu peut-être s'en fout de ces règles-là pour le moment. Il veut que la personne qu'il a décidé de bénir ses enfants reçoive sa bénédiction en le faisant. Et l'autorité peut venir couper le pont sans le savoir. Alléluia. Oh, alléluia. David dit à son père, à son frère, qu'est-ce que je fais de mal? Et ce qui me plaît dans cette partie, c'est que la Bible dit, il n'a pas parlé beaucoup. Il s'est simplement tourné. Et il a continué à parler avec les autres. En fait, il a continué sa mission. Il a continué ce qu'il avait à faire. Il a continué à écouter la voix intérieure qu'il entendait. Il a continué à avoir cette motivation qui était en lui, qui lui disait, continue, quelque chose va se passer. Continue, quelque chose va se passer. Ne laisse pas Eliab te décourager. Eliab était ici pendant tout le temps, il n'a même pas pu ouvrir la bouche contre ce Goliath. Vous savez, il y a des gens qui ont fait 40 ans à l'église, 30 ans à l'église, 60 ans quelque part, ou même qui ont eu toutes les consécrations qu'il faut, qui n'ont jamais pu accomplir quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui va venir en une seule journée, en une seule semaine, en un mois, accomplir la chose que toutes ces personnes n'ont pas pu accomplir. Je veux même aller plus loin pour dire, nous sommes là, nous prions pour que les âmes remplissent ce lieu. Peut-être qu'il y aura une personne qu'on ne considérera même pas, qui va apparaître un jour comme ça, et cette personne sera comme de l'aimant pour attirer une foule de personnes derrière lui. Parce que c'est la destinée de cette personne. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne regarde pas les choses comme les hommes les regardent. Et Dieu prend des choses faibles pour confondre les choses fortes. Amen. Dieu prend les choses faibles pour confondre les choses fortes. Alléluia. David se tourna. Il ne s'occupait pas de son frère. Il continua à poser la question. Le verset 31 dit, « Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül,
qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. On va continuer la lecture. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis marcher avec ses armures. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de qui ?» On peut répéter ensemble, au nom de qui ? De l'Éternel des armées, Dieu, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres. Hein? Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Je m'arrête là un instant. Bien-aimés, voici que David, après avoir exprimé sa foi et ne pas écouter son frère et tous ceux qui voulaient le décourager, David va pouvoir s'approcher du roi Saül. Le roi va dire, mais c'est qui dit dans ce peuple qui peut vaincre cet homme que nous n'arrivons pas à vaincre, nous sommes effrayés. Il va voir un petit garçon de rien du tout. Dieu n'utilise pas les choses fortes. Il prend les choses qui n'ont pas de sens, que les gens ne considèrent pas. C'est ce que Dieu prend pour travailler. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus est né dans une crèche. Il n'est pas né dans un château. Alléluia. Et David arrive à côté de Saül. Saül va lui dire, mais mon enfant, tu es trop petit, tu es un enfant. Cet homme, depuis qu'il est né, fait la guerre, et puis il est costaud, il va te tuer. Regardez bien ce que David va dire, bien-aimé. David dit, cet homme ne me vaincra pas.
Avant de remporter ta victoire, il faut que tu la proclames d'abord.
Vous n'avez pas compris ce matin. J'ai l'impression que vous êtes en train de penser plus à vos problèmes que de penser à ce message que je prêche. Je vais voir des gens sauter de joie quand ces paroles sortent. Je dis, avant de remporter ta victoire, il faut la proclamer d'abord.
Oui. Si tu dis, je suis riche, ta richesse s'accomplira.
Tu dis, je suis fort, ta force s'accomplira. Tu dis, je suis puissant, ça s'accomplira. C'est ce que tu proclameras qui se réalisera. Lorsque David était devant Saül, Saül a commencé, lui, en tant que roi, à le décourager. C'est le roi qui parle. Il dit, tu es un enfant, tu ne peux rien faire. Mais David n'a pas écouté les paroles du roi. David a commencé à proclamer sa victoire. David a commencé déjà à proclamer sa victoire, à remporter spirituellement la victoire. Il dit au roi, non, que personne ne s'inquiète. J'irai et je vaincrai ce Philistin, cet incirconcis. J'irai remporter la victoire de mon peuple. Il avait déjà remporté, dès qu'il avait dit cette parole, David avait déjà remporté la victoire. Il n'a même pas réfléchi pour dire, mais est-ce que ce que le roi dit n'est pas vrai? Peut-être que cet homme va me tuer. Non, David a gardé la foi qu'il avait dès le départ. Il a dit, que personne ne s'effraie. Restez tranquille, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais tuer ce Philistin. Sans même savoir comment il allait tuer ce Philistin. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin. Je veux révéler à quelqu'un ce matin. Toi-même, tu ne sais pas comment vaincre ton Goliath. Toi-même, tu ne sais pas quelle prière, parmi toutes les prières que tu fais, tu vas pouvoir vaincre ton Goliath. Mais lorsque tu seras en face de lui, le Saint-Esprit te dirigera dans la prière qu'il faut pour vaincre ton Goliath. C'est pourquoi la Bible dit que souvent nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous auprès de Dieu. La situation est difficile, Goliath est devant toi. Va tout simplement avec ta foi. C'est Dieu lui-même qui fera sortir au moment voulu, à l'instant voulu, la parole qu'il faudra, l'action qu'il faudra pour que ce Goliath disparaisse. Toi, ne te pose plus de questions, ne calcule pas pour dire, mais comment je vais le vaincre? Et si je finis de le vaincre, je fais quoi? Non, proclame ta victoire, avance par la foi et Dieu agira comme il a prévu. La Bible dit que Saül va donner quoi? Son armure à David. Il va vouloir l'habiller comme un soldat. David essaye. Saül va, il a porté, mais il ne peut pas marcher avec. Donc, boum, ça tombe, c'est trop grand que lui. Il dit, roi, je ne veux pas de ces armures. Je ne suis pas habitué à ça. Oh, bien-aimé, Dieu ne travaillera pas avec toi avec les choses des hommes. Il ne travaillera pas avec le système des humains. Il travaillera avec son propre système pour toi. Alléluia. Ce n'est pas avec les armes humaines que tu vas remporter tes victoires, mais c'est avec les armes spirituelles de Dieu. La foi, l'espérance, la parole de Dieu, le Saint-Esprit en toi. Alléluia. David porte les armures. Il dit, ça ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas habitué à ce système. Vous savez, ça veut dire beaucoup de choses cette partie. Ça veut dire que devant la situation, devant le Goliath, va pas chercher des situations humaines. Va pas chercher des situations humaines. Je vais même dire à quelqu'un, si tu as la foi en Dieu, qu'il t'arrive un jour d'être à découvert, va pas dire je vais prendre un crédit. Mets-toi à genoux, prie. Dis Seigneur, je suis ton enfant. Je suis dans telle situation. Donne-moi la solution. Il t'arrive des situations, va pas faire comme les hommes du monde le font. Ou par exemple, certaines femmes disent, ah, je ne peux pas payer mon loyer. Donc aujourd'hui, ce mois-ci, je vais quand même pécher pour ce mois. Parce qu'il y a telle personne qui m'a proposé telle somme, ça va pouvoir m'aider pour le loyer. Et puis le mois après, je demanderai pardon à Dieu. Non, va pas chercher des solutions des situations. Appuie-toi toujours sur Dieu. David dit, au nom de l'Éternel, lui va remporter la vie. On lui donne les armures. Les armures sont des choses humaines. Ça ne le convient pas. Il est habitué au spirituel. D'ailleurs, il va le dire à Saül. Il dit à Saül, voici, je vais t'expliquer pourquoi je peux vaincre Goliath. Quand j'étais dans la forêt, dans mon intimité avec Dieu, j'ai vaincu le lion, j'ai vaincu l'ours,
David va expliquer à Saül, il va convaincre Saül que lui, David, lorsque l'ours ou le lion venait prendre une de ses brebis, il poursuivait le lion ou l'ours, il arrachait sa brebis, et quand il finit d'arracher la brebis, si le lion, par hasard, osait s'arrêter devant lui, David, David va dire quelque chose. Il ne dit pas je prends une pierre ou je prends un caillou. Il dit j'attrape le lion par la gorge. Alléluia. Montre-moi l'homme qui peut attraper un lion par la gorge. Il dit je l'attrape par la gorge, je l'étrangle et je le tue. Et c'est de cette même manière que je vais tuer ce Goliath. De la même manière que les gens ont peur du lion, de l'ours, que moi je l'attrape par la gorge pour l'étrangler, ce Goliath sera aussi étranglé. J'ai été déjà formé dans la forêt. J'ai été formé déjà dans mon intimité. J'ai été déjà formé avec mon Dieu. Maintenant, ce que j'ai appris dans le secret avec Dieu, je vais le mettre en valeur contre ce Goliath, contre cette montagne. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, ta victoire dépendra de ton intimité avec Dieu. Ta victoire dépendra des moments que tu as avec Dieu dans le silence, dans le calme, quand personne n'entend parler de toi. Quand on dit, voilà un grand homme de Dieu, va voir derrière lui combien de temps il passe devant Dieu. Quand on dit, voilà une grande femme qui est bénie pour l'œuvre de Dieu, un grand homme qui est béni de Dieu, un couple qui est béni pour l'œuvre de Dieu, va voir le temps qu'ils passent pour Dieu et les sacrifices qu'ils font pour Dieu. Alléluia. Certaines personnes, des fois, ne comprennent pas et disent, non, mais pourquoi il est béni de la sorte? C'est de la magie, c'est ceci, cela. Ça arrive que certains le font. Mais en général, les vrais enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ont une intimité avec Dieu et Dieu a décidé qu'il y ait un temps de bénédiction. Alléluia. Pour avancer, voici que Goliath maintenant va apprendre qu'il y a quelqu'un qui vient pour le combattre. Donc Goliath est content parce qu'il a un adversaire enfin. Et cette personne arrive, c'est un enfant. Goliath commence à rigoler. Mais mon petit, tu m'as pris pour un chien ou quoi? Tu viens vers moi comme ça avec des cailloux. Avec des cailloux, mon petit, mais ça n'a pas de valeur des cailloux devant moi. Regarde comment je suis, regarde ma taille, regarde mon ami, regarde la personne qui est devant moi, qui attrape mes amis. Lui-même déjà, tu dois avoir peur de lui, parce qu'il faut qu'il soit costaud pour prendre moi mes amis, parce que ça pèse. Et après lui, moi. Mais toi, un petit comme ça, tu vas me faire quoi? Il commence à dire à David, aujourd'hui je vais donner ta chair aux chiens, aux animaux, aux oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Tu vas te dévorer, tu vas mourir. Il commence à proclamer qu'il va tuer David. Regardez que David va proclamer encore sa victoire devant Goliath. Il va dire, non, tu te trompes. Bien aimé, deux fois si on dit de mauvaises paroles sur vous, ne les laissez pas s'accomplir, changez-les. Je ne vous dis pas d'aller vous disputer, de vous quereller. Mais quelqu'un vient te regarder et te dit, toi, tu vas voir. Dis-lui, je ne verrai rien. C'est toi plutôt qui verras. Parce que moi, je suis fils de Dieu. Si quelqu'un vient te dire, tu verras ceci, telle chose va t'arriver, renverse sa parole, dis-lui, retourne à l'envoyeur. Ce que tu as dit ne m'arrivera pas, mais ça t'arrivera en double, parce que je suis fils de l'Éternel. Ne laissez pas les gens parler comme ça sur vous, parce que la parole agit. Si David n'avait pas ouvert sa bouche pour répondre à Goliath, il n'aurait pas eu sa victoire. Mais déjà psychologiquement et spirituellement, il avait déjà remporté sa victoire devant Goliath. Il dit à Goliath, oh, je vais te tuer, je vais même couper ta tête. Toi, tu dis que tu vas me donner aux chiens, aux animaux, aux oiseaux. Mais moi, petit que tu vois que tu es en train d'insulter, je ne viens pas vers toi avec des âmes d'hommes. Je viens avec le nom de qui? De l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, c'est quoi? Le nom de l'Éternel, qui le connaît? Le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 4, le verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, à part le nom de Jésus. Dieu n'avait jamais révélé son nom dans l'Ancien Testament. Là où le nom de Dieu a été révélé, c'est dans le Nouveau Testament. Il est écrit dans Ésaïe, un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Donc cet enfant qui allait naître était Dieu. Et ce Dieu qui allait naître venait pour révéler un nom. Et ce nom est le seul nom qui sauve l'humanité. Il n'y a pas deux noms. Il n'y a pas Bouddha. Il n'y a pas un certain je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'autres noms qui peuvent sauver à part le nom de Jésus-Christ. Et David dit, moi je viens avec le nom de Jésus. Il dit, je viens avec le nom de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus disait, en mon nom, vous chasserez les démons. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Tout. Il dit bien, tout ce que vous demanderez. Donc David a eu la révélation. Il dit, je viens avec le nom de l'Éternel. Même s'il n'a pas prononcé ce nom, mais ce nom qui était caché, ce nom devrait agir. Et d'ailleurs, il va nous le prouver. David va aller prendre quoi? Il va aller prendre 5 pierres. Regardez où il a pris les 5 pierres. Alléluia. Il a pris 5 pierres. Il prit 5 pierres. Le verset 49 dit, il prit, on va aller plus haut. Aussitôt que le Philistin se mit dans ses devants. Aujourd'hui l'Éternel, 46 dit aujourd'hui l'Éternel, n'attends. Alléluia. Il y a un petit détail que je voulais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer le verset avant de continuer. Si quelqu'un trouve, il peut le lire avant moi. Là où David a pris les pierres. 40. Voilà. Et il prit en main son bâton. Choisi dans le torrent. Le torrent, c'est quoi? Le torrent, c'est quoi, bien-aimé? Le torrent, c'est de l'eau. C'est quoi? L'eau. L'eau représente quoi? La parole de Dieu. L'eau représente la source de vie. Donc, David va aller dans la parole de Dieu. Il va aller dans le torrent. Il va aller dans l'eau pour prendre précisément pas une pierre, pas deux pierres, pas trois pierres, pas quatre pierres, mais il va prendre précisément 5 pierres polies. 5 pierres. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que les 5 pierres représentent les 5 lettres du nom de Jésus. Oh, alléluia, quelqu'un n'a pas acclamé pour cette parole. Je ne sens pas ce peuple ce matin. Je dis les 5 pierres représentent les 5 lettres du nom de Jésus. J, E, S-U-S. Alléluia. Il prend 5 pierres bien polies qu'il choisit dans le torrent, dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il émet quoi? Il émet quoi? Dans sa gibecière. Dans sa gibecière. Alléluia. Dans sa gibecière. Sa foi. Sa gibecière était sa foi. La sagibécière était sa foi, vous savez pourquoi? Parce que c'est là qu'il a mis ses pierres en sûreté. C'est là qu'il a mis le nom de Jésus. Il savait que ces 5 pierres dans sa sagibécière, il faisait confiance à la sagibécière. Avec cette sagibécière, il avait déjà été en face du lion, en face de l'ours, et les pierres ne sont pas tombées. Les pierres ne se sont pas échappées. Et il va, cette sagibécière étant quelque sorte sa foi, et il va prendre les 5 pierres du nom de Jésus, il va les mettre dans sa foi. Sa gibecière. Et la Bible dit qu'il va sortir une seule pierre parmi les 5. La première lettre, J. Et il va mettre cette lettre dans quoi? Il va mettre dans une fronde. C'était en quelque sorte comme un lance-pierre sans pied. Un lance-pierre qu'on tournait comme ça. Alléluia. La fronde, c'est quoi? C'est la manifestation de sa foi. La fronde, c'est la manifestation de sa foi. Sa foi était la gibecière. Et la gibecière lui gardait les pierres. Il prend la pierre et il met la pierre dans la manifestation de ta foi. Il ne s'agit pas d'avoir la foi. On peut avoir la foi, mais il faut la manifester quand on l'a. Si David avait pris les 5 pierres qu'il les avait laissées là, dans ce coin, les pierres n'auront rien fait. Mais il a fallu qu'il sorte une pierre pour la mettre dans la manifestation, qui est la fronde. Oh, alléluia! Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Philistin voulait vaincre David. Alors je vais dire à quelqu'un, toutes les victoires que tu remporteras doivent se remporter d'abord dans le spirituel avant qu'on le voie dans le physique. Si tu as vaincu dans le spirituel, on verra dans le physique ta victoire. Si ta prière t'a mis au-dessus du sorcier, physiquement tu verras que le sorcier ne peut rien faire contre toi. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir une vie de... Je n'ai pas entendu une vie de... Parce que toutes tes victoires, tout ce que tu veux, tu dois le posséder d'abord dans la prière, avant de les voir se manifester. Tu veux une belle voiture, prends ta voiture dans la prière. Tu veux une protection divine, prends-la dans la prière. Tu veux vaincre ton Goliath, il faut proclamer dans ta prière que tu as vaincu ton Goliath. C'est pourquoi la plupart du temps, nous faisons des prières de proclamation. Nous faisons des prières de proclamation. Je suis ceci, je déclare ceci, je suis cela, telle chose est sur ma vie. Parce que nous les possédons par la foi avant de les voir se manifester dans le physique. Alléluia. Le verset 48 dit, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Bien-aimé, le Philistin a commencé à venir vers David. Lisez votre Bible. Est-ce que David a reculé? Est-ce que David l'a attendu? La Bible dit que David a couru devant lui. Bien-aimé, la plupart du temps, les enfants de Dieu attendent trop que le problème vienne tomber d'abord sur eux, avant de se rendre qu'il y a un problème. Il faut courir devant ton épreuve déjà par tes proclamations et par ta victoire. Toi-même affronte, tu sais que ça ne va pas. Tu attends quoi pour te lever, pour prier, pour dire au nom de Jésus, je remporte ceci, cela, cela. Des fois, on attend que tout aille mal. On attend que tout soit difficile. Pour qu'on dise, oh Seigneur mon Dieu, pour plénicher devant Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, pourquoi tu m'as fait ceci? Ne me fais pas cela, oh Seigneur. Dieu dit, pendant que je te prévenais par le message, pendant que je te prévenais en esprit, pendant que je te disais tout le temps, prier, lis ta Bible, prie, tu faisais quoi? Tu attendais d'abord. Amen. Oh Seigneur, pourquoi ma voiture est cassée? Je n'ai plus de voiture pour aller au travail. Je t'avais prévenu de prier. Que les sorciers en voulaient à tes biens. Oh Seigneur, pourquoi mon enfant est décédé? Oh Seigneur, pourquoi je suis malade hospitalisé? Je t'avais prévenu de prier, de te lever chaque 3 heures du matin pendant 2 semaines que tu pries, tu ne m'as pas écouté. Il faut courir devant la chose. J'ai dit une fois à quelqu'un, le confort tue la foi. Des fois, quand on est trop confortable, tout va bien, on oublie que le combat continue. Il faut courir devant ton épreuve. Des fois, c'est quand c'est difficile que le chrétien se rend compte que quelque chose se passe et il commence à pleurer et à pleurnicher devant Dieu. Alors que tout le temps, le Seigneur l'a prévenu. Tout le temps, le Seigneur lui a dit, fais ceci, fais cela, il y a des choses qui vont se passer. Fais attention, il y a des choses qui vont faire. Et on n'écoute pas. Mais quand ça se passe mal, Seigneur, mais pourquoi ça m'est arrivé? Dieu dit, je t'avais prévenu depuis longtemps, tu ne m'as pas pris au sérieux. Je prie que ce matin, quelque chose se déclenche en nous. Et que nous sachions que nos victoires, nous allons les remporter que lorsque nous courons devant eux. Courez plus vite que vos épreuves. Affrontez vos épreuves et remportez vos victoires. Mais ne laissez pas les épreuves venir jusqu'à vous. Parce que quand ils viendront jusqu'à vous, ils seront un poids. Regardez bien ce qui s'est passé. Goliath commençait à avancer vers David. Imaginez la taille de Goliath. Imaginez sa force. Imaginez qu'il était à côté de David. David ne pouvait plus rien faire. Il allait l'attraper et l'écraser, le déchirer en morceaux. C'est la distance qui a permis à David de remporter cette victoire. Bien-aimé, c'est la distance. Ne laisse jamais ton épreuve, ta montagne se rapprocher proche de toi. Cours devant de lui et affronte-le avec la parole de Dieu et ta foi. Cours devant cette épreuve, cours devant cette montagne et affronte-la. Cours devant cette montagne. Je dis, quelle est la montagne qui est en train de te fatiguer ce matin? Quelle est l'épreuve qui est en train de te fatiguer ce matin? Cours devant elle, affronte-la, affronte-la avec le nom de Jésus par la foi et remporte ta victoire. Amen. Ne laisse pas ton épreuve venir devant toi pour t'écraser. Jésus, avant de mourir, a dit, tout est accompli. Tu as déjà la victoire. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour aller au devant de cette épreuve? Avance. Cours devant elle. avec les sept lettres du nom de Jésus, cours devant elle, avec ce puissant nom glorieux, ce nom qui fait trembler Satan, ce nom qui fait trembler les démons, et avance vers ton épreuve, et dis à ton épreuve, c'est moi que tu veux affronter, est-ce que tu m'as bien regardé? Moi je viens avec le nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, je te taille en pièces.
Wow, Seigneur.
C'est là que tu verras ta victoire. Laisse jamais ton épreuve venir jusqu'à la porte de ta maison. Laisse jamais ton épreuve, parce que l'épreuve est une montagne. Elle est trop lourde. Si elle s'approche de toi, elle va t'écraser. Elle va tuer tes enfants. Elle va tuer tes biens. Elle va tuer tes finances. Elle va tuer ta foi. Elle va t'écraser. Elle va tuer ton mariage. Elle va tuer ton travail. Elle va tuer ton avenir. Ne la laisse pas s'approcher. Tu l'as vu venir de loin. Cours devant elle avec des paroles de victoire et remporte ta victoire. Bien-aimé, la Bible dit que cet homme venait devant David. David a couru devant lui. David a pris une pierre. David a mis la pierre dans sa fronde, qui est la manifestation de sa foi. Et la Bible dit que David a tourné sa fronde et il a lancé cette pierre sur ce Philistin. La Bible dit que la pierre n'est pas allée dans son cœur, la pierre n'est pas allée dans son pied, la pierre n'est pas allée dans ses mains. La pierre allait où? Dans son front. La pierre allait dans son front. Oh, alléluia! La pierre allait détruire sa pensée, sa mauvaise pensée qu'il avait pour détruire David. La pierre, le nom de Jésus, allait d'abord affronter sa tête, sa pensée, là où se trouvaient toutes ses pensées mauvaises, là où il pensait pour réfléchir toutes ses paroles mauvaises qu'il adressait au peuple de Dieu, là où il a pensé qu'il va te tuer. Bien-aimé, quand tu vas courir devant lui, ta pierre, ta foi va aller détruire sa pensée. Avant même qu'il tombe, David l'a cogné par la tête dans sa pensée, dans le front. La Bible ne dit pas que la pierre l'a tout simplement tapé. La Bible dit que la pierre est rentrée dans son front. La pierre est rentrée dans son front. Dans le nom de Jésus a vaincu sa pensée, sa mauvaise pensée, avant que lui-même physiquement il soit vaincu. Et la Bible dit que cet homme est tombé. Et quand il est tombé, David a encore continué à courir vers lui. Et David a allé prendre l'épée, sa propre épée. Je vais dire à quelqu'un, les armes qu'ils ont préparées contre toi seront les mêmes armes que tu prendras toi-même entre leurs mains pour les égorger. Si tu avances par la foi avec le nom de Jésus, tout ce qu'ils sont en train de faire retournera contre eux-mêmes. Si ta foi est toujours basée en Jésus, David va aller et il va couper la tête de cet homme. On n'en parle plus. Plus de Goliath, plus de montagne. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage, je ne vais même pas le lire parce qu'on n'a plus assez de temps. Je vais terminer le message comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est que remarquez bien que quand David a tué Goliath, quelque chose s'est passé. Quand David a tué Goliath, quelque chose s'est passé. Remarquez bien. Est-ce qu'au départ, le peuple n'avait pas peur de Goliath? Est-ce qu'au départ, il n'avait pas peur des Philistins? Il fallait que David vienne tuer Goliath pour qu'ils se rendent compte qu'en eux, en fait, se trouvait la force de l'un des Philistins. C'est maintenant qu'ils vont commencer à courir derrière eux. C'est pourquoi j'ai dit, comme thème de mon message, ta montagne ouvrira plusieurs portes. David est celui qui est venu vaincre la montagne. Mais quand il a vaincu la montagne, les autres portes se sont ouvertes. Ouais, vous voyez, ils ont commencé à courir, chacun derrière les Philistins, ils ont tué les Philistins sans se rendre compte. Alors que depuis qu'ils étaient là, ils pouvaient le faire. Mais ils avaient peur. Il fallait que David vienne manifester sa foi. Donc David a donné l'occasion à d'autres personnes de comprendre qu'ils étaient aussi des héros, qu'ils pouvaient remporter des victoires. Et la Bible dit que David, quand il a tué le Philistin, il a coupé sa tête avant qu'il ramène sa tête à Saül. Saül va demander, mais c'est le fils de qui? Et on va lui dire, mais cet enfant-là, c'est le fils de, comment on appelle? Saül dit, de qui es-tu, jeune homme? Il dit que, David répondit, je suis le fils de ton serviteur, Isaïe de Bethléem. Mais son serviteur, ça veut dire que le père de David était le serviteur de Saül. Mais Saül ne connaissait pas le père de David. Et voilà que la victoire de David va faire sortir le nom de son père.
Alléluia. Ta victoire fera paraître ta famille. Ta victoire fera paraître ton nom. Ta victoire fera paraître ta renommée. La Bible dit que Jésus, après ses 40 jours de jeûne, lorsqu'il est sorti, il a commencé à opérer les miracles. La Bible dit que sa renommée se répandait. Tout le monde entendait parler de lui. Et les gens parlant de lui disaient, mais c'est Jésus, fils de Marie. C'est Jésus, fils de Joseph. Son père Joseph commençait à avoir de la renommée à cause de lui. Sa mère Marie commençait à avoir de la renommée à cause de lui. Qu'on dise de toi demain, c'est un chrétien du myriade. Qu'on dise de toi demain, c'est une fille de Jésus-Christ. Qu'on dise de toi demain, c'est une fille de Dieu, c'est un fils de Dieu. Que ta renommée glorifie Dieu. Que ta renommée glorifie le peuple de Dieu dans lequel tu te trouves. Parce que tu as réussi à vaincre ton Goliath. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé, je vais vous dire ce matin. La parole de Dieu ne sort jamais, 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 jamais en vain. Quel est le Goliath qui est en train de te fatiguer? Quel est le Goliath qui s'est présenté devant toi, qui n'arrête pas de te naguer? Quel est le Goliath qui vient toujours, qui dépasse ses frontières pour venir t'affronter? Lorsque tu as fini de lutter, tu dis, bon, enfin, on a la solution. Il y a une autre situation encore qui vient se présenter. Quel est le Goliath qui joue? Regardez bien le travail de Goliath. Ce qu'il faisait, il agissait contre la conscience du peuple d'Israël. Il est traumatisé dans la conscience. Il arrivait dans la conscience. C'est pourquoi d'ailleurs, quand David devait le tuer, David, la pierre pouvait aller dans son cœur. Hein. Mais Dieu a voulu lui dire, ta mauvaise pensée que tu as eue contre ce peuple, tu as traumatisé tellement leur conscience, c'est de la même manière que je vais te frapper toi dans ta conscience avant que tu meures. Goliath ne s'attendait pas à ce qu'une pierre puisse vaincre, le vaincre en rentrant dans son front. Quand Goliath se regardait dans le miroir, il se trouvait très grand, très beau, très fort. Il n'avait jamais prévu et su qu'une pierre, une petite pierre, allait pouvoir rentrer un jour dans ce front. Les mauvaises pensées qu'ils ont contre toi, les mauvaises pensées, il y a des gens qui sont chez eux, qui ne dorment pas, ils ne pensent qu'à toi. Tu ne fais pas du mal, tu les fais du bien, des fois même tu pries pour eux, mais ils sont en train de penser de mal de toi. Qu'est-ce que je vais faire? Pour lui, ceci, cela. Tu es ici, hein? Ils sont dans une autre ville. Mais ils sont encore en train de penser mal de toi. Des mauvaises pensées. Laisse-moi te dire que les mauvaises pensées qu'ils ont sera ce qui va déclencher la victoire de Dieu dans ta vie. Dieu va frapper leurs pensées et Dieu va les faire tomber. À cause de ce que tu as été prédestiné à y vivre. Quelle est la situation qui est devant toi? Quel est le Goliath qui est devant toi? Tu ne le vaincras pas par la chair. Tu ne le vaincras pas par des stratégies. Tu ne le vaincras pas par la solution humaine. Mais tu le vaincras avec la foi et la parole de Dieu. Mais je vais terminer ce message en te disant, en te répétant, pour remporter de cette victoire, il faut avoir une communion avec Dieu. Aie l'habitude de parler à Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand tu as l'habitude de prier, tu as l'habitude de parler à Dieu, que tu sais entendre la voix de Dieu, quand une situation difficile va arriver, il y a une voix qui va te parler. Et tu pourras savoir si c'est Dieu qui te parle ou si c'est le diable qui te parle. Parce que tu as eu l'habitude d'avoir une communion et tu reconnais la voix de Dieu. Que le Seigneur ce matin vous bénisse. Que le Seigneur ce matin encourage la foi de chacun de nous. Et qu'à partir de ce matin, vous ne laissez plus une preuve venir vous vaincre. Mais dès que vous sentez que la chose est là-bas, que vous courez avec la parole de Dieu devant elle, dans la prière et par la foi, pour remporter vos victoires. Ayez donc une vie de prière. Ayez donc une vie de proclamation. Ayez donc une foi qui surmonte toutes les fois. Car lorsque vous vaincrez votre montagne, vous aurez toutes les portes ouvertes devant vous. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Prions pour cette parole. Père, je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie pour cette parole qui sort ce matin pour motiver la foi de tout un chacun. Je prie que dans ce peuple, Seigneur, la foi soit énorme. Je prie que dans cette église, Seigneur, nous ne laissons plus jamais, Père Céleste, une preuve venir nous vaincre. Mais que nous soyons toujours au devant d'elle pour la néantir, pour l'écraser, pour la surmonter, et que toutes nos victoires glorifient ton nom. Merci Seigneur parce que nous avons écouté ta parole et nous savons qu'elle est tombée dans une terre fertile et qu'elle va nous aider pour l'avancement, Seigneur, dans la foi au nom de Jésus. Je bénis ce peuple par cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen.